Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, j'espère que vous passez un bon week-end à l'écoute d'Aligre FM sur le 93.1 en ces temps troublés. Vous verrez, on ne va pas trop s'éloigner de l'actualité d'une certaine manière. On va parler donc de l'appropriation culturelle. Appropriation culturelle, un concept très ancré aujourd'hui dans la critique des industries créatives. Appropriation et appréciation culturelle, deux termes qui cohabitent dans notre perception de la culture. Des polémiques récurrentes portent sur la notion d'appropriation culturelle. Que signifie parler de ça, de l'appropriation culturelle? Comment apporter une position nuancée sur ce concept? De quelle manière aborder ce débat en toute quiétude aujourd'hui en France? C'est l'objet du livre de Kemaïs Benlagdar, L'appropriation culturelle, histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental. Cet essai rend compte de la réalité de l'appropriation culturelle dans les industries créatives. Il met aussi au jour une histoire de ce concept pour mieux la comprendre et tenter de la dépasser. L'appropriation culturelle publiée chez Stock. Bonsoir, Kemaïs Benlagdar.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Vous êtes donc doctorant à l'Université Paris 1 Sorbonne. Vous êtes historien de la mode occidentale, mais surtout, comme vous dites, de la mode orientale.
Oui.
Comme vous dites à page 10 du livre. Pour vous, Kemaïs Benlagdar, la question de l'appropriation culturelle ne doit pas être un point de rupture, ni une manière de fermer le dialogue, mais bien au contraire, un point de départ pour réfléchir ensemble à notre époque, à nos pratiques et à notre société. Le but de votre démarche, c'est donc d'expliquer l'histoire de l'appropriation culturelle, son évolution et ses modes d'action. L'histoire, justement, parlons-en, puisque les premières pages de votre livre portent sur l'histoire, en quelque sorte, de cette notion, de ce concept. Je vous cite en page 28... La mode contemporaine et son système créatif est colonial par essence. Page 30. Ainsi, l'industrie de la mode est par extension une forme de colonialisme. Alors, expliquez-nous comment, et donc du point de vue historique, comment justement cette appropriation culturelle s'inscrit dans une relation entre colonisateurs et colonisés.
Alors, merci déjà de me recevoir. On pourrait commencer par revenir à l'histoire et donc du coup se défaire du débat contemporain qui est complètement hystérique, à vrai dire. C'est-à-dire que appropriation culturelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une insulte, qu'on assène, c'est des postures binaires, etc. Et donc du coup, c'est beaucoup d'émotionnalité, à vrai dire, de l'émotion que appropriation culturelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une insulte, qu'on assène, c'est des postures binaires, etc. Et donc du coup, c'est beaucoup d'émotionnalité, à vrai dire, de l'émotion contrariée. Et donc qui nous empêche de regarder le système et l'histoire. Et je suis historien, donc du coup j'essaye de regarder l'histoire, du moins, enfin, c'est mon but. Et en fait, si vous voulez, je constate, je l'explique du moins dans l'introduction et tout au long de la première partie de l'ouvrage, que l'appropriation culturelle s'insère en fait dans le colonialisme, effectivement, mais qu'il faut regarder en fait la mode et plus globalement les industries culturelles, avec deux autres événements très importants qui se produisent au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, donc du coup du progrès technique, de la révolution de la machine. C'est aussi l'avènement de cette idée de mode haute couture. On fixe à 1858, nous les historiens de la mode, l'apparition de la notion de haute couture avec l'ouverture de la maison Charles-Frédéric Wörth, donc qui va institutionnaliser en quelque sorte la figure du grand couturier couturier qui a sa maison, sa créativité, qui présente des collections l'été, l'hiver, qui utilise la presse, une communication, etc. Des égéries aussi. Enfin, vraiment, ce système qui perdure encore aujourd'hui. On est complètement tributaire de cette idée de mode du 19e siècle. Bon, donc on a la révolution industrielle d'un côté, on a l'apparition de cette notion de haute couture de l'autre, et on a aussi le début de ce qu'on appelle la deuxième phase de colonisation à partir de 1830 avec le début de la colonisation algérienne, et puis qui va s'intensifier aussi pendant la Troisième République. Avec,
on peut juste dire que la première phase, c'était l'arrivée des Espagnols en Amérique.
Exactement, voilà. Exactement. On sépare souvent en deux phases les processus de colonisation qui sont assez différents et dans des contextes complètement différents. Les temps modernes, 1492 avec la découverte des Amériques effectivement par Christophe Colomb, la colonisation de ces Amériques-là, les Antilles, etc., la traite négrière. Bon, et cette deuxième phase de colonisation qui arrive à l'ère industrielle, qui est extrêmement pérenne et surtout qui est toujours très vivace aujourd'hui. On vit toujours dans un monde qu'on pourrait considérer comme néocolonial. Donc, moi, je suis parti de ces trois faits-là. Révolution industrielle, haute couture et début du processus de colonisation. Et je postule dans ma thèse que finalement, la mode est un art, mais c'est aussi et surtout une industrie qui bénéficie de la révolution industrielle, de façon très concrète, l'apparition de la machine à coudre, le fordisme dans la couture parisienne, donc cette espèce d'hyper-hiérarchisation de la couture, l'utilisation d'une main-d'œuvre extrêmement bon marché pour faire énormément de vêtements. Et en fait, la colonisation a un rôle aussi à jouer dans le développement de cette notion de mode. Pourquoi ? Parce que finalement, l'Orient, cette contrée qui est colonisée, qui est en train d'être colonisée, devient un réservoir de forme absolument intarissable pour la couture parisienne. Des formes qu'on n'a jamais vues à ce point en Occident. Et surtout, en fait, au milieu du 19e siècle, il se produit quelque chose d'assez important. On assiste dans les milieux producteurs d'art à une crise sans précédent, puisque des historiens de l'art, des théoriciens de l'art comme Gottfried Semper, comme Owen Jones, par exemple, sont très très inquiets de la pauvreté, finalement, de la création artistique occidentale. Le 19e siècle, il est dominé par un style qu'on appelle l'historicisme, l'éclectisme. C'est un style qui va magnifier, qui va esthétiser les styles glorieux du passé. Et finalement, en fait, ces historiens disent que le 19e siècle n'a rien d'autre à offrir qu'une relecture du passé. Ils font une corrélation entre cet historicisme et la décadence de la création occidentale. Ils se disent en fait que le 19e siècle n'est pas capable de produire un nouvel art, et donc du coup que la santé de cette civilisation est en péril, en quelque sorte. Et finalement, avec le processus de colonisation qui va mettre en scène dans le cadre d'expositions universelles, coloniales, une quantité absolument astronomique d'objets orientaux, les couturiers, les artistes vont trouver en fait une salvation, en quelque sorte. Ils vont se dire oh, « mais c'est magnifique tout ça, eh bien appuyons-nous maintenant sur ce nouveau modèle de manière à renouveler la création artistique ». Et vraiment, il faut le comprendre ça, c'est vraiment quelque chose qui est très crucial à avoir en tête, c'est-à-dire que l'insertion méthodique des cultures matérielles orientales dans la créativité, dans une période industrielle et capitaliste, se fonde sur le processus d'appropriation culturelle et se fonde aussi sur un processus de domination, puisque précisément, on avait les grands empires coloniaux qui étaient l'Empire britannique et l'Empire français qui étaient littéralement responsables de génocide, responsables de crimes contre l'humanité, responsables de colonisation complètement débridée. Et donc voilà, enfin, une subalternisation aussi de cet autre qui va être utilisée, esthétisée pour précisément renouveler la création en Occident.
Vous écrivez, je connais très peu de concepts aussi démocratisés qui ont ce potentiel de remettre autant en cause les relations de pouvoir et de domination, parlant donc de l'appropriation culturelle. En même temps, ce que vous venez de décrire, Kemaïs Ben Lakhdar, c'est, je voudrais vous dire tout simplement, ce sont des créateurs qui s'inspirent d'une certaine façon. Où est le problème? Où est la question de domination pour des créateurs de mode qui s'inspirent de Delorient, qu'ils ont à leur portée à Paris au XIXe siècle?
Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique et pourquoi est-ce qu'on parle de domination? Parce que en regardant la manière dont ils s'inspirent, souvent, ces créateurs véhiculent des pensées racistes, des stéréotypes aussi qui sont issus du colonialisme. En fait, moi, ce que j'ai tendance à dire souvent que je suis pour le mécanisme d'interculturalité. Il faut que les cultures se mélangent. D'ailleurs, c'est la seule manière qu'elles ont de survivre. Une culture qui ne se mélange pas, c'est une culture qui est vouée à mourir. Cela dit, il faut quand même regarder le contexte de cette interculturalité. Et ce que je constate dans les industries créatives, c'est que finalement, en prétendant rendre hommage à ces cultures, finalement, ils échouent à le faire, puisque la culture, dans son ensemble, dans sa complexité, est souvent essentialisée à un objet fixe qui ne change jamais. C'est-à-dire qu'on parle d'un tissu spécifique, on parle d'un vêtement spécifique, on parle d'un symbole, d'un objet qui est extrêmement reconnaissable tout de suite. Et surtout, en fait, lorsqu'on va rendre hommage à cette culture, eh bien, on le fait sans les premiers concernés. Donc finalement, on est dans un processus de silenciation de ces populations qu'on prétend mettre en avant. Tout ça, et c'est très important de le rappeler quand même, dans le système capitaliste de la haute couture et de la mode, qui n'entend finalement que faire du profit. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas altruiste. Le capitalisme ne produit pas un échange culturel sain. C'est-à-dire que le capitalisme a toujours en ligne de mire le profit. Et un profit, du coup, qui se met en place dans un rapport de force ou qui est complètement inégal, finalement.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
Je reçois Kemaïs Ben Lakhdar pour la publication de son livre « L'appropriation culturelle » publié chez Stock. Pour quelles raisons, alors bien sûr là je m'adresse aux spécialistes de la mode que vous êtes, pour quelles raisons le terme de la mode vestimentaire, du vêtement, est-il plus pertinent qu'un autre, par exemple la musique, pour interroger cette notion d'appropriation culturelle?
Alors, c'est intéressant comme question. Déjà, peut-être, j'aimerais simplement le cadrer et donner une définition de ce qu'on entend par appropriation culturelle aujourd'hui. On parle d'un mécanisme d'oppression, un mécanisme de prédation de la culture, dans lequel un groupe dominant se saisit d'un objet, d'un symbole, d'un vêtement, d'un groupe minoritaire, minorisé, en décontextualisant cet objet, en le resémantisant, et surtout à des fins capitalistes, et en véhiculant, du coup, des pensées, souvent, enfin, des stéréotypes racistes. En disant la
définition, j'ai oublié votre question, excusez-moi. La question, pourquoi la mode vestimentaire
c'est
plus pertinent qu'un autre domaine pour parler
pourquoi
de ce concept?
Est-ce qu'elle est plus pertinente? Parce qu'elle s'impose à nos yeux avant qu'on ouvre la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, la mode nous précède. Le vêtement qu'on porte nous précède. Et le vêtement est situé dans le spectre social. C'est-à-dire qu'on s'habille d'une certaine manière et c'est comme un espèce de code non-verbal qui nous permet de nous positionner. Et finalement, comme c'est des images, comme c'est des choses tangibles, c'est plus facile à déceler qu'un son, par exemple dans une musique, ou qu'une recette pour la gastronomie, ou que sais-je. Vraiment, la mode, c'est matériel, c'est tangible, c'est visible. Et il me semble en fait que c'est la porte d'entrée idéale, justement, pour réfléchir à des mécanismes d'interculturalité en contexte de domination.
Alors, maintenant, on a bien compris historiquement d'où venait cette notion d'appropriation culturelle, et donc née donc de rapports de domination. Les temps ont changé, donc on est au 19e siècle, les temps ont changé, la relation, alors ça peut faire débat, mais elle n'est plus la même. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir justement appropriation culturelle dans un cadre autre que de domination?
Non. Bah non.
Alors, du coup. Oui, tout à fait, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est dans un rapport colonial. Imaginez un couturier qui va en Angola ou en Corée du Sud, où on veut, et qui s'inspire donc de ce qu'il voit, des tissus, et qui crée à partir de ça.
Alors, c'est
marrant. De façon très, 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 très basique. Est-ce qu'on peut, là on ne peut pas parler d'appropriation, on peut plus parler d'inspiration, le cadre, la relation n'est pas, le contexte de la relation a quand même changé.
Vous me permettez justement de mettre en lumière un concept qui est clé dans la pensée des coloniales latino-américaines. Ce concept, c'est le concept de colonialité, un concept qui est assez transdisciplinaire, puisqu'on parle de colonialité du pouvoir, de colonialité du savoir, de colonialité du genre, etc. Qu'est-ce qui nous dit ce concept? C'est un mécanisme de domination qui s'instaure pendant la période de colonisation, pendant le colonialisme, mais qui survit surtout aux décolonisations et qui continue finalement d'organiser le monde dans un temps post-colonial. Je peux vous donner un exemple avec la colonialité du savoir. L'épistémée occidentale, blanche majoritairement, prime sur toutes les autres. Les savoirs ancestraux indigènes, par exemple, ne sont pas du tout placés sur un même niveau d'égalité que le savoir qui est réalisé et qui est produit dans les universités occidentales. Au même titre qu'aujourd'hui, dans le monde universitaire, c'est l'anglais qui domine. L'anglais domine, donc, eh bien, si vous n'écrivez pas en anglais, eh bien, vous avez une force de frappe inférieure. C'est d'ailleurs tout le problème avec la pensée décoloniale qui s'écrit principalement en espagnol et en portugais au départ et qui du coup a peiné à arriver en France précisément à cause d'un problème de traduction, au même titre que la colonialité du pouvoir. Aujourd'hui, on parle de sud global qui est un terme en fait qui veut pas dire grand chose, si ce n'est en fait des populations qui ne sont pas dans les nords, donc c'est-à-dire dans les pays développés. Le qualificatif de pays en développement, moi il me gêne énormément, puisque jusqu'à quand ils seront en développement et à partir de quand ils deviendront développés. C'est une manière, encore une fois, de les subalterniser. Si vous voulez, en fait, même si le colonialisme, même si l'empire colonial n'existe plus, il y a toujours en fait ces reliquats de colonialisme qui continuent d'organiser. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple avec la mode, on est en pleine Fashion Week Homme en ce moment. Les médias de mode occidentaux mettent en avant principalement quatre capitales que sont New York, Londres, Milan et Paris, qu'on appelle traditionnellement les Big Four, puisque c'est les quatre Fashion Week traditionnelles. Il en existe des centaines d'autres de Fashion Week qui ne sont jamais mis en avant. Et finalement, la Fashion Week de Lagos, la Fashion Week de Dakar, la Fashion Week de Johannesburg, celle de Séoul, celle de Tokyo, celle du Mexique, enfin de Mexico, celle de Rio, qui montrent en fait une créativité sans précédent aussi. Et finalement, en se concentrant uniquement sur ces quatre Fashion Week, eh bien finalement, on invisibilise toutes les autres et on donne une vision complètement biaisée de la créativité mondiale. Donc même si on n'est plus dans ce colonialisme qui a quand même organisé le monde pendant au moins 5 siècles, enfin enfin les cinq derniers siècles, on vit toujours dans des reliquats de ce colonialisme qui informe aussi et qui précède la créativité des couturiers. C'est-à-dire que un couturier qui part en voyage en Angola, comme vous dites, pour s'inspirer pour sa prochaine collection qu'il présentera dans un des centres occidentaux de la mode, finalement, en fait, il fait exactement la même chose qu'un Paul Poiret ou qu'un Mariano Fortuny au tout début du XXe siècle, des grands couturiers d'alors, qui partaient en voyage d'études pour s'inspirer, pour présenter de la nouveauté à leur clientèle très, très, très parisienne. On a un continuum historique, on a un continuum colonial qui est assez redoutable à déconstruire, puisqu'on le place sur le principe de l'interculturalité magnifique, de l'hommage, de l'amour de son prochain, mais qui s'inscrit dans une époque coloniale. Donc, voilà, c'est un petit peu là où le bât blesse, on dirait.
On écoute un peu de musique et on reprend notre entretien avec vous. Kemaïs Ben Lagdar, je rappelle le titre de votre livre, L'appropriation culturelle, histoire, domination et création, aux origines d'un pillage occidental, c'est publié chez Stock.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
La musique de Prince sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans en version originale. On écoutait The Question of You. Je suis toujours en compagnie de Kemaïs Ben Lagdar qui publie L'appropriation culturelle aux éditions Stock. Alors, depuis des années, on va dire très accentué dans les années 90, on nous parle donc de cette tendance du multiculturalisme qui est à l'œuvre. C'est une réalité, on peut la nommer comme on veut, mais il y a quand même cette relation issue de la mondialisation qui, artistiquement, politiquement, commercialement, mêle les différentes régions du monde, les différents pays en relation. Comment faire la différence entre cette tendance et l'appropriation culturelle qui s'est opérée et qui continue de s'opérer? Comment se retrouver?
Alors, comment dire? Le multiculturalisme, moi, je suis toujours très, 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 très craintif de ce mot qui a été angélisé, à vrai dire, et qui cache une réalité qui est quand même assez raciste, finalement. C'est-à-dire que ce que je donne l'exemple, un exemple assez parlant, il me semble, 1998 en France, on est dans la France black blanc beurre qui célèbre la victoire à la Coupe du Monde. J'étais petit à cette époque, mais je me rappelle quand même de l'effervescence. Et puis on est dans une société post-raciale où tout le monde s'aime, et voilà. Et au même moment, en fait, des années 80 aux années 2010, la France fait voter 17 lois sur l'immigration qui rigidifient, encore une fois, l'accès au territoire national. C'est pas moi qui le dis, c'est le musée de l'histoire de l'immigration lui-même. Donc finalement, en fait, j'ai toujours tendance j'ai un peu peur, à vrai dire, de cette angélisation du multiculturalisme où tout le monde s'aimerait sur papier glacé comme, comme dans les pubs Benetton pour les besoins d'une autre recherche sur Paco Rabanne et son rapport avec la musique afro-américaine, antillaise, etc. À la fin des années 70, début 80, j'ai dû m'intéresser aussi à tout le contexte historique de ces années 70, 80, 90. Je me suis quand même rendu compte qu'en 1983, le FN fait une entrée tonitruante à l'Assemblée nationale. La jeunesse emmerdait le FN à cette époque, littéralement. On voit quand même un continuum assez effrayant. On parle de déferlantes migratoires dans les journaux. La marche des beurs, celle qu'on a appelée la marche des beurs, mais qui s'appelait initialement la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui part quand même de Vénissieux, dans le quartier des Minguettes de Vénissieux, en réaction à une série assez incommensurable de crimes racistes perpétrés par la police à l'endroit de personnes racisées et de personnes immigrées. Vous voyez, en fait...
C'est des faits, ça. Hein,
ah, c'est des faits, oui, je veux dire, c'est des faits. Mmh. 1983, cette marche va être ensuite récupérée politiquement, SOS racisme, etc., avec le « touche pas à mon pote », qui est quand même un slogan assez infantilisant pour, finalement, les personnes racisées. Enfin, c'est... Si vous voulez, lorsque je mets tous ces cas de racisme structurel les uns à côté des autres, et vraiment presque année après année, j'ai quand même du mal à penser au multiculturalisme angélique qu'on nous sert à toutes les sauces. Donc voilà, si vous voulez, le multiculturalisme existe, évidemment, il a produit des choses importantes, il a produit des rencontres, il a produit des chocs. Édouard Glissant parle de créolisation. Édouard Glissant, il a bon dos aussi, parce que lorsqu'on dévoie complètement sa pensée en l'invoquant et en disant qu'il faut créoliser, qu'il faut mélanger, qu'il faut inspirer, on se souvient pas que Édouard Glissant parle depuis les Antilles, depuis un territoire colonisé encore aujourd'hui. Les départements d'outre-mer sont toujours sont l'héritage de la colonisation, première colonisation.
Des survivances, en tout cas.
Exactement. Mmh. Et lorsqu'il nous parle de créolisation, il nous parle depuis la marge, et il nous parle aussi de la force de l'agentivité des populations antillaises, des populations de la Caraïbe, qui ont été en capacité d'inventer des nouveaux langages, qui ont été en capacité d'inventer une nouvelle culture, qui était syncrétique, etc. Et sa créolisation, c'est un idéal qui est porté depuis les Suds, pas depuis les Nords. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'on nous parle de diaspora, Gilles Roy qui parle d'Atlantique Nord, excusez-moi, il est exactement dans ce même processus de penser la culture et l'interculturalité depuis les Suds aussi, ou depuis les territoires marginalisés. Donc, je trouve finalement en fait que en invoquant le multiculturalisme comme l'utopie, finalement, on ne réfléchit pas tellement aux faits historiques et à la réalité du racisme dans le monde occidental.
Parlons de vous en tant qu'enseignant. Je vous cite, en histoire de la mode, spécialisé dans l'histoire de l'orientalisme vestimentaire, j'ai développé un programme pédagogique autour de cette question de l'appropriation culturelle dans la mode occidentale. Et pour être honnête, cela m'a donné beaucoup de fil à retordre. En quoi consiste cette pédagogie, justement ?
Alors, pourquoi ça m'a donné beaucoup de fil à retordre ? Eh bien, parce que, par où commencer ? L'appropriation culturelle, comme je le disais au début de l'émission, c'est une insulte. Aujourd'hui, c'est une manière vraiment de clôturer le débat. Mmh. Et je vois bien que mes étudiants sont toujours assez craintifs au début de ce cours-là. Et donc, c'est pour ça que je leur fais des avertissements en leur disant « Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Nous ne débattons pas de façon émotionnelle. Il va falloir que vous quittiez vos positions de principe et que vous soyez dans la nuance. Le débat est permis, il est d'ailleurs encouragé, mais le débat dans la limite du respect mutuel. Et en fait, pourquoi est-ce que ça a été extrêmement compliqué pour moi de créer ce cours ? Parce que je savais pas où chercher au départ. Parce que, en fait, lorsque j'essayais de comprendre, je lisais des articles de journalistes qui étaient visiblement, enfin, à l'évidence, pas très très informés, et qui citaient parfois l'apparition du concept dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2010. On disait que c'était un faux concept, surtout en France, que c'était un concept dangereux, que c'était un concept qui assignerait à résidence toutes les cultures, etc. Et en fait, comment faire pour séparer le bon grain de l'ivraie, quoi ? Et comment faire pour faire une historiographie qui rende compte de façon concrète, précise et dépassionnée de l'histoire du concept ? C'était vraiment, en fait, mon objectif premier, qui en a parlé pour la première fois, ou du moins qui est considéré comme étant le premier à en avoir parlé. Comment est-ce que ça va évoluer ? Dans quel contexte ça évolue ? Pourquoi est-ce que ça évolue ? Qui s'en saisit, dans quel contexte. Et voilà, en fait, c'est vraiment le but de mon cours. C'est finalement, à la fin de ce cours-là, donner aux étudiants la capacité de dire qui, où, quand, pourquoi, comment. Et ça, ça a été un travail de recherche assez abyssal.
Et aujourd'hui, est-ce que ce programme de recherche a porté ses fruits ? Comment est-ce que ça se passe ?
Eh bien, je suis assez content parce que là, récemment, j'ai reçu des messages de plusieurs étudiants qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie et qui me disent que mon cours les a aidés dans des situations très concrètes où ils faisaient du consulting, enfin où ils étaient consultants sur certaines choses et où en fait ils ont perçu des problématiques liées à l'appropriation culturelle ou au racisme et que du coup en fait ils ont pu mobiliser auprès des marques les concepts appris en cours. Et alors là, vraiment, je me suis dit, mais je peux mourir tranquillement. Si j'ai réussi à faire ça, une action extrêmement concrète, j'étais heureux, quoi. J'étais ravi de voir ça.
Et si vous devriez donc définir ce qu'on appelle la pensée décoloniale, comment est-ce que vous la définiriez ?
Alors, c'est marrant. Pourquoi est-ce que c'est drôle ? C'est parce qu'en fait, on fait Attendez, je recommence. Il y a une confusion entre ce qu'on appelle la pensée post-coloniale et la pensée décoloniale, qui sont deux pensées différentes. La pensée post-coloniale, elle apparaît dans les années 70, surtout dans des départements d'études littéraires, dans un paysage anglo-saxon. Elle est très associée au texte, au discours, et elle est portée par une trinité. Donc on a Édouard Saïd, on a Gayatri Spivak et on a Homi Bhabha, qui sont les trois figures tutélaires de cette pensée, avec tous leurs suiveurs, tous leurs contradicteurs, etc. Et en fait, qui entend faire un... comment dire appliquer un regard rétrospectif sur les processus de colonisation, mais principalement les processus britanniques et français. La pensée décoloniale, c'est une pensée qui a un tout autre corpus et une toute autre chronologie d'études. En fait, un groupe se constitue, Hannibal Quijano, qui va notamment s'intéresser qui va croiser deux concepts, le concept de modernité, le concept de colonialité, et eux, en fait, reviennent à une histoire du colonialisme beaucoup plus importante, beaucoup plus antérieure. Ils font démarrer leur étude en 1492, au moment où l'Amérique est découverte. Le Nouveau Monde, qui n'était pas du tout nouveau, puisqu'il était peuplé, juste ça.
Il existait déjà.
Voilà, il existait déjà. Il était simplement inconnu de l'Occident, mais il existait. Et donc, en fait, ils vont faire une corrélation entre cette époque de la modernité, de l'apparition du capitalisme, des premières colonisations, avec cette idée de la colonialité. Et ils vont réfléchir à une colonisation, du coup, portugaise, espagnole aussi. Et donc, du coup, on est vraiment sur une chronologie différente une transdisciplinarité qui existait peu finalement dans les études postcoloniales, puisque on n'est pas simplement intéressé par les études littéraires. On s'intéresse à la philosophie, à la sociologie, à l'anthropologie, à la finance, etc. On est vraiment sur une pensée qui va être extrêmement diverse et beaucoup plus inclusive, on dirait. Voilà.
Et vous avez le sentiment que aujourd'hui encore, le débat sur l'appropriation culturelle reste encore très passionné, très très tendu.
Ah bah oui, vraiment. On est taxé de wokiste, à tire-larigot. Mmh. Moi, si vous voulez, à chaque fois que je prends la parole sur ce sujet, donc là, pour la promotion du livre, mais même avant la promotion, je me suis retrouvé en face de commentaires sur les réseaux sociaux, mais abjects, d'un racisme crasse, où finalement, on me renvoie à mes origines sans cesse. Un des commentaires qui m'avait le plus choqué, c'était un monsieur qui me disait « Ce monsieur crache son fiel, son venin sur la culture occidentale dans un micro qui n'est précisément pas une technologie inventée par sa civilisation. » Et je me suis
Quelle
dit «
violence.
Bon !» Ah oui, je me suis dit par où commencer, par où prendre les choses. C'est une expression... Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, et ça je suis très content, mais il y a aussi une expression complètement décomplexée d'un racisme crasse qui me laisse entendre que le débat est toujours aussi passionné, et pourtant j'essaye de le dépassionner, j'essaye d'apporter des concepts, j'essaye de dire que ce concept n'existe pas, enfin n'apparaît pas à l'heure des réseaux sociaux, que c'est un concept qui, comme tous les concepts, est complexe, a été utilisé par de très nombreux auteurs qui l'ont complexifié, qui l'ont fait évoluer, qui ont retiré des choses, etc. Et un concept qui apparaît dans un moment clé de l'histoire aussi. Voilà, enfin... Et pourtant, en fait, l'émotion prime toujours sur, disons, la rationalité et même, enfin, juste l'histoire, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
En tout cas, Kemaïs Ben Lagdar, vous essayez de nous apporter un peu de rationalité dans ces débats qui, comme vous le dites, peuvent être vraiment très passionnés et très violents. Et vous, comment s'est forgée votre culture politique sur le racisme ? Parce que votre livre, Kemal Ben Lagdar, c'est une porte d'entrée sur ces questions-là.
Exactement.
La domination des pays impérialistes sur d'autres, la question de la race, la question du racisme et du colonialisme. Comment s'est forgée cette culture chez vous ?
Comment s'est forgée ? Alors déjà, empiriquement, en étant une personne racisée dans l'espace public français, on est victime de racisme. Et étant issu d'une classe sociale assez modeste, ce racisme est doublé de mépris de classe. Donc, bref. C'est un sujet qui met vraiment ma pensée, ma pensée antiraciste aussi, je l'ai approché avec mes recherches. Je l'ai approché en m'intéressant justement au thème de l'orientalisme dans la mode et surtout en fait à la peinture orientaliste qui véhicule une série assez incommensurable de stéréotypes complètement racistes, de la femme orientale complètement soumise, offerte, avide, enfin de turpitude, l'homme arabe qui est soit un tyran sanguinaire d'une virilité exacerbée, soit au contraire un jeune et faible facile à posséder. Mmh. C'est ces espèces de binarismes qui sont très ancrés finalement dans la société, qui ont forgé en fait une pensée antiraciste que j'ai creusée avec mes lectures postcoloniales, décoloniales, que j'affine avec mon sujet de recherche. Et finalement, je me rends compte en fait que ma thèse et que ce bouquin parlent de moi, quoi. C'est toujours comme ça.
C'est ça. Mais en même temps, c'est un vrai travail donc, d'apprendre à distinguer ce qui relève de l'héritage du colonialisme de ce qui ne relève pas de cet héritage-là. Alors, aujourd'hui en France... Alors, mais on est dans une actualité très inquiète, enfin très très angoissante pour beaucoup de personnes aujourd'hui en France. La question, on est quand même à quelques jours où un parti politique raciste, xénophobe peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui en France. Et quel regard donc, avec votre approche bien sûr d'historien, travaillant sur ces sujets-là, qui sont des portes d'entrée sur la question, comme je le disais, la question du racisme et du colonialisme. Ce débat-là, le rapport des Français avec leur passé colonial, est-ce que vous considérez que les choses ont avancé ? Si vous devriez faire un état des lieux de ce sujet aujourd'hui en France, comment est-ce que vous pourriez en parler ?
Alors... C'est un impensé hein, quand même, hein, l'empire colonial en France et l'héritage colonial. Mais j'ai pas envie d'être complètement pessimiste parce que ça serait faire offense et insulte aux travaux absolument brillants de Pascal Blanchard, de Gilles Boetsch, de tout ce groupe en fait aussi qui est au CNRS, qui est extrêmement important, au travail de Patrick Boucheron, au travail de Françoise Vergès, etc., qui sont médiatiques et qui sont médiatisés et qui sont importants. Mais on constate quand même que la France a énormément de mal à faire son examen de conscience, et parce qu'en fait, il prétendent que ça serait faire de la repentance. En histoire, on ne connaît pas ce mot de repentance. En histoire, on parle de faits irréfutables qui se sont produits, et on essaye de voir comment est-ce que ces faits produisent aussi finalement notre quotidien, enfin d'aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, en France, on n'a aucun musée qui est explicitement tourné sur l'histoire coloniale. On a des musées du timbre-poste, on a des musées de la chaussure, de la mode, du chapeau, de tout ce que vous voulez, de l'affiche publicitaire, etc. Et aucun musée sur l'histoire coloniale. Alors que ça représente quand même 6 siècles, 5 siècles de notre histoire commune.
Il y a le musée de l'immigration, comment vous le percevez? Cette initiative.
Je trouve que ce musée est extrêmement important, mais qu'il ne parle pas de colonialisme. Il parle de vagues migratoires, il parle de l'histoire de la migration, ils produisent un savoir absolument exceptionnel et très très important, notamment avec leur revue scientifique « Hommes et migration » qui est absolument géniale et qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Internet. Mais enfin, Ça s'appelle le musée de l'histoire de l'immigration. Ça ne s'appelle pas le musée de l'histoire de la colonisation, par exemple.
Et de quelle manière, d'après vous, aborder ce sujet en faisant de l'histoire, en étant rationnel, sans tomber dans, alors évidemment, on peut, sans tomber dans une forme de revendication, dans une forme de contestation. Comment arriver, en élargissant le plus possible vers ce qu'on peut appeler le grand public, ces questions-là, sans pour autant être dans l'invective, dans le débat, dans la contestation?
C'est difficile, et en même temps, moi, je suis pour une histoire... L'histoire, elle n'est jamais neutre, elle est toujours fixée, elle est écrite par des personnes qui vivent et qui ont des pensées, etc. Ça serait complètement faux de penser que l'histoire pourrait être objective. L'histoire, elle est nécessairement militante. Et d'ailleurs, je le revendique aussi un petit peu, ça. Je pense que, il faut donner beaucoup plus de poids et de parole à ces historiens-là, qui sont très nombreux. Et qui publie énormément. Il faut pouvoir aussi, lorsque on voit des débats aujourd'hui en France sur certaines chaînes qui disent des choses mais complètement ahurissantes, qui pourraient être contrées, mais à la seconde, par un spécialiste de la question coloniale. On ne les voit pas, ces gens-là. Moi, je suis vraiment partant pour... mettre en avant les universitaires qui travaillent depuis des années, des années et des années sur ces questions-là. C'est vraiment, il me semble, un levier qui est très important. Développer l'offre pédagogique, développer l'offre culturelle et simplement raconter les faits. Les faits. Comment est-ce que ça s'est passé, la colonisation ? J'ai pas souvenir qu'on m'ait raconté l'histoire de la colonisation au lycée. Par exemple, dans ma formation, j'ai appris des choses. C'est ce que j'explique dans le bouquin, par exemple, Jules Ferry. Moi, c'était l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je ne savais pas du tout que c'était le fer de lance de la mission civilisatrice et qui a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, l'endroit même où le Premier ministre, les ministres français aujourd'hui... proclame des discours, il faut civiliser les populations sauvages, car c'est notre devoir, nous, population supérieure, d'apporter la lumière aux incivilisés. Enfin, vous voyez, c'est des histoires qui sont complètement tues, finalement. Et je trouve que c'est assez drôle. On parle de continuité républicaine. On dit que la 5e est héritière de la 4e, de la 3e, et ensuite on remonte à la Révolution française et on nous parle de l'évolution démocratique républicaine de la France. Bon, très bien. Et on a à la bouche le général de Gaulle qui libère la France, on a à la bouche toutes ces grandes figures de l'histoire de la République française, etc. Et bizarrement, lorsqu'il s'agit de parler d'un Ferry qui est pour la colonisation, tout de suite, la continuité républicaine, elle est un petit peu mise en sourdine. Vous voyez, en fait, c'est un double discours, moi, qui me gêne beaucoup en tant qu'historien, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important de ne jamais taire ce qui s'est fait, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Au contraire, en fait, lorsque les vérités sont tues, elles deviennent putrides, elles deviennent venimeuses, quoi. Donc du coup, c'est véritablement cette idée-là. Il me semble que juste raconter les faits de façon extrêmement froide serait aussi un moyen. Mais alors là, il faudrait... Il faudrait vraiment avoir engagé notre examen de conscience. On en est loin.
Moi, je pense beaucoup aux portes d'entrée pour toucher les générations les plus jeunes. Vous ne pensez pas, en tant qu'historien de la mode, que justement, la réalité de la mode vestimentaire, peut être une passerelle, peut être une façon d'amener les jeunes sur ces questions-là.
Exactement. C'est ce que je leur dis en introduction du cours sur l'appropriation culturelle. Je leur dis le concept d'appropriation culturelle est l'arbre qui cache la forêt, du racisme, de la domination systémique, etc. Donc, on va parler de mode, on va parler d'interculturalité, mais on va aussi parler de racisme. Et on va aussi parler de domination. Donc, du coup... préparez-vous à ne pas parler uniquement que de mode ici. On va parler de mécanismes, de subalternisation de l'autre, pourquoi cet autre est subalternisé, pourquoi est-ce qu'il est altérisé, pourquoi est-ce qu'il est dominé, etc., etc. Donc oui, en fait, c'est une porte d'entrée, mon travail, ou même lorsque je fais une histoire de la mode en Occident, donc c'est-à-dire que je parle... J'ai un programme de cours qui s'étend de Marie-Antoinette aux années 80. Bon, je me contente pas uniquement de parler, en fait, de centrer ce cours uniquement sur la cour de Versailles, sur le contexte français, etc. Il s'agit aussi de s'intéresser au contexte global. Par exemple, l'orientalisme, le premier orientalisme du début du 19e siècle est rendu possible par notamment la campagne d'Égypte de Napoléon, qui était en fait une expédition coloniale et avec des enjeux géopolitiques absolument majeurs, etc. Donc il faut aussi leur dire que Napoléon, lorsqu'il part en Égypte avec tous ses artistes et tous ses scientifiques, il y va aussi avec une armée, enfin, immense, et qu'on est dans une sorte de processus de colonisation aussi. Vous voyez, en fait, c'est aussi, j'ai à cœur, à chaque fois que je parle de vêtements orientaux, orientalistes, de toujours sourcer les références, l'objet avant qu'il n'arrive en Occident. Qu'est-ce qu'il veut dire dans la société source, entre guillemets ? Qu'est-ce qui signifie ? Qu'est-ce qui symbolise, etc. De manière à toujours montrer aux étudiants que la mode n'est pas uniquement qu'un concept occidental, que c'est un concept mondial. Et donc, du coup, en cela, on décolonise de l'intérieur aussi l'enseignement mode. Voilà, ça me semble, c'est des pistes, on dirait, pour tenter de leur ouvrir un champ de réflexion. Par exemple, j'ai un cours sur l'apparition de la sneakers, donc ces chaussures avec des semelles en caoutchouc. Bon, eh bien, ils sont toujours un petit peu... Ça, j'aime bien raconter cet exemple, je le raconte souvent, pour donner une action concrète sur une lecture décoloniale de l'histoire de la mode. C'est-à-dire qu'ils sont toujours un petit peu, surpris au début, parce qu'ils s'attendent à ce que je parle des grandes firmes, de Nike, d'Adidas, de Puma, etc. Et en fait, je commence mon cours sur... avec une question très simple, c'est quels sont les matériaux utilisés pour faire ces chaussures ? Donc ils me disent de la toile, du cuir, etc. Il fait oui, mais encore, la semelle, elle est en quelle matière ? Elle est en caoutchouc. D'où vient le caoutchouc ? Est-ce que c'est une production occidentale ? Bah non, c'est une production qu'on trouve principalement au Congo. D'ailleurs, Léopold II va s'enrichir énormément, immensément, avec l'extraction du caoutchouc au Congo belge. On le trouve aussi en Indochine, on le trouve au Brésil. Ah, mais alors, c'est intéressant, parce que du coup, cette sneakers qui est au pied de tout le monde aujourd'hui... Sans la colonisation et sans l'extraction massive du caoutchouc dans ce qu'on appelle précisément le sud global, bah, cette histoire, elle aurait été complètement différente. Vous voyez, en fait, finalement, que dans votre quotidien le plus banal au monde, on s'inscrit dans une histoire coloniale, finalement. Donc, et souvent, les retours que j'ai à la fin de ce cours, c'est « Oh, j'y avais jamais pensé
!» mais ça, c'est pas non plus une façon d'empêcher de vivre, c'est juste en être
bien
conscient.
Sûr, d'en bien avoir sûr. Conscience, conscience, quoi. D'en sûr. Avoir conscience.
Ouais. Sinon, l'argument, on vous dira, sinon on ne fait plus rien.
Bah si oui, bien sûr.
Il fallait des freins, mais justement, comprendre dans quel monde on est.
Voilà, c'est ça. La prise de conscience, ouais. Et ensuite l'action, mais d'abord et avant tout, la prise de conscience. Ouais.
D'accord. Mais un élément aussi, donc vous en tant que professeur, donc historien, spécialiste de la mode, donc vous voyez quand même la société française aussi de là où vous êtes, du milieu universitaire, donc de façon plus globale, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui en France, à cette actualité, est-ce que vous êtes inquiet ? Qu'est-ce que vous ressentez autour de vous ? Comment est-ce que vous, de là où vous êtes, vous capter l'atmosphère du pays ?
Je suis très, très, très inquiet. Vous savez, c'est assez intéressant parce que Donc lundi matin, donc le lundi qui succède ce dimanche chaotique, je me suis réveillé avec une gueule de bois sans avoir bu une goutte d'alcool. C'est extrêmement bizarre comme sensation. Je suis dévasté par ce qui se passe, je suis dévasté par cette espèce de banalisation de l'extrême droite. Ça me fait très peur. C'est... surtout en fait ça donne des ailes à tous les fachos de France et de Navarre
qui se lâchent, on peut dire.
Qui se lâchent complètement. Je sais pas si vous avez vu récemment l'envoyé spécial là qui est passé il y a quelques jours où on voit une séquence absolument abjecte où on a deux électeurs du Front National qui tiennent des propos racistes mais complètement décomplexés devant une caméra où il y a certainement marqué France 2 dessus. Je suis dévasté, je suis très très inquiet. Je suis très inquiet.
Là c'est toujours la question que faire, mais on n'a pas de réponse en même temps.
Ce que j'essaye de faire, c'est de donner des outils. À ma maigre échelle, peut-être pour comprendre et surtout aussi relayer des appels au vote, relayer des vidéos sur les réseaux sociaux, donner de la force aussi. Alors je suis complètement agoraphobe, donc malheureusement je ne peux pas aller en manifestation, mais voilà, enfin on se sent assez démuni là-dessus, quoi. Mais il faut aller voter le 30 et le 7, pour sûr. Et voilà.
Et vous avez le sentiment, par exemple, les personnes plus jeunes que vous côtoyez, donc vos étudiants, en sont conscients ?
D'aller voter ?
D'une part, donc, de la situation, avant l'acte de vote, mais de la situation. Comment est-ce que vous les ressentez ?
Alors, à vrai dire, ils sont en vacances actuellement. Donc, du coup, je les vois plus, je les verrai en septembre. Donc, du coup, on n'a pas pu parler à chaud de ce qui se passe. Mais je suppose quand même que on est un peu au pied du mur. Ils peuvent pas accueillir de façon très enthousiaste, mais court, de la tambouille décoloniale, comme j'aime bien le dire, et aller voter RN dans un même temps. Donc je présume, enfin du moins, j'en appelle à leur intelligence, quoi.
Merci, Kemaïs Ben Lagdar. Écoutez, j'invite donc nos éditeurs à lire votre livre pour un débat en tout cas plus rationnel sur cette question-là, moins violent, moins passionné, moins passionnel. Donc Histoire, domination et création aux origines d'un pillage occidental, chez Stock, l'appropriation culturelle.
Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.
Je remercie Enrico Mastro Giovanni qui était à la technique ce soir pour cette édition de version originale. Dans un instant, vous retrouvez toute l'équipe de Dancing Vibe. Pas ce soir. En tout cas, restez à l'écoute de nos programmes. Donc, passez un bon week-end. Je vous retrouve samedi prochain, 19h, sur Aligre FM 93.1. À bientôt.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson's bitch a potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sinister corner.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.